Radio Prague, les informations.
Plusieurs manifestations ont eu lieu dans le pays à l'occasion du 1er mai. Une quarantaine de soldats tchèques a terminé sa mission à Bassora. La Tchéquie ouvrira les négociations sur l'implantation d'un radar américain sur son territoire. Ce mardi 1er mai, l'esplanade de l'Etna à Prague a été le théâtre d'une manifestation contre le communisme en présence d'un millier de personnes. Plusieurs interventions ont été prononcées. Le premier ministre Mirek Topolánek a figuré parmi les orateurs. Un programme musical y a lieu ce mardi après-midi. Sous le communisme, l'esplanade de l'Etna a été chaque 1er mai un lieu de meeting grandiose. La police de Prague est intervenue contre les anarchistes non loin du centre-ville qui ont essayé d'empêcher un défilé de sympathisants et de membres d'organisations de l'extrême droite. La circulation de tramway a été en partie bloquée. Près de 500 membres du mouvement néo-nazi et la résistance nationale qui a vu le jour en 1999 ont manifesté à Brno, chef-lieu de la Moravie du Sud. La police les a démantelés au moment où ils s'apprêtaient à parcourir la ville. La fête du 1er mai a été une occasion pour Jiří Paroubek, président du Parti social-démocrate, premier parti dans l'opposition, de critiquer les réformes gouvernementales et d'évoquer la possibilité des élections anticipées. Les communistes, quant à eux, ont eu leur manifestation dans l'enceinte de la foire des expositions à Prague. La manifestation a été portée dans l'esprit d'un non catégorique à la base de radar que les États-Unis veulent édifier en République tchèque. Les 43 derniers soldats tchèques qui avaient été déployés pendant 4 mois à Bassora en Irak, dans le cadre du premier contingent de l'armée comptant une centaine de membres, sont arrivés à Prague. La présence des militaires tchèques à Bassora se poursuit avec l'implantation du deuxième contingent dans la région dont la mission s'étend également sur 4 mois. Le retour est donc prévu pour le mois d'août. En croire une récente étude de la société Jones Lang LaSalle qui évalue les marchés en Europe centrale, Prague représente une des destinations touristiques privilégiées occupant la 6e position du top 10 européen. Prague deviendra à l'avenir la 3e destination touristique en Europe après Londres et Paris, déclare une autre agence tchèque tourisme. Le prochain festival du film final, dont la dernière édition s'est déroulée la semaine passée à Plzeň, mettra à l'honneur le réalisateur tchèque Jiří Krejčík. Une rétrospective de ses œuvres sera consacrée à son 90e anniversaire. Météo, le temps ensoleillé de ces derniers jours persiste. Ce mercredi, marqué dans le calendrier comme le jour de fête de Zikmund, les températures varieront entre 14 et 18 degrés. C'était le journal présenté par Alena Gabertova.
Bonjour à toutes et à tous, 1er mai aujourd'hui, donc émission spéciale, une émission spéciale en compagnie de Suzanne Bartošek. Suzanne Bartošek, veuve de l'historien tchèque Karel Bartošek, qu'elle a rencontré en 1956 à Paris et qu'elle a rejoint à Prague 3 ans plus tard. Elle a vécu en Tchécoslovaquie pendant près de 23 ans, avant de finalement décider de retourner en France avec son mari et ses enfants pour échapper au harcèlement du régime communiste. Et c'est dans son appartement parisien que Suzanne Bartošek nous a d'abord raconté son arrivée à Prague à la fin des années 50.
Au début, quand je suis arrivée en 59, mon Dieu, j'étais jeune, j'étais amoureuse. Pour moi, tout était peut-être plus facile que ça n'était en réalité. Il n'en reste pas moins que petit à petit j'ai bien compris les difficultés de la vie dans la Tchécoslovaquie de l'époque, en particulier au tout début des années 60, en 60 62, 63, il y a eu, j'avais mon premier bébé, et je me souviens les queues qu'il fallait faire pour avoir ne serait-ce que quelques légumes pour faire une petite soupe à mon bébé, les queues pour la viande. Enfin, il y a eu une période très difficile au tout début des années 60 sur le plan économique. Puis, bon, comme vous le savez, les choses tout au long des années 60 sont devenues de plus en plus, aussi bien sur le plan du ravitaillement, bon, que sur le plan ensuite de la liberté d'expression, la liberté d'aller et de venir, les choses sont devenues de plus en plus favorables. Et il y a eu toute une période qui a été tout à fait merveilleuse jusqu'à 68, évidemment.
J'ai lu que vous sillonniez à l'époque les rues de Prague en deux chevaux.
Oui, j'ai ramené une deux chevaux de France en 68. Donc oui, je sillonnais les rues de Prague en deux chevaux entre, oui, disons 68 et peut-être 72, 73, car bon, ensuite, les difficultés matérielles de notre vie ont fait que nous avons dû vendre la deux chevaux, puisque bon, comme vous le savez, à ce moment-là, mon mari était interdit de profession. Il a dû donc travailler à diverses tâches manuelles. Moi-même, j'ai été renvoyée de l'école de formation de traducteurs et d'interprètes où je travaillais, donc bon, la vie a vraiment changé. Et on a vendu là deux chevaux.
Alors, avant d'en arriver là, vous étiez à Prague lors de ces tragiques journées, lors de la fin du mois d'août 1968. Quel souvenir conservez-vous de cette époque particulière ?
Oh mon Dieu, oui. Nous étions là c'est à 4 ou 5 heures du matin que notre voisine est venue frapper à notre porte bon, pour nous dire que les chars étaient arrivés. J'en garde un souvenir. Terrifiée naturellement. Mon mari a disparu pendant une semaine à peu près. Il s'est occupé en particulier d'écrire les textes du congrès extraordinaire de Wysoczani. Il était en relation avec toutes les actions menées pendant cette semaine auxquelles l'Institut d'Histoire contemporaine de l'Académie des sciences où il travaillait a d'ailleurs consacré un livre au récit de cette semaine. Et donc moi j'étais avec trois enfants et puis avec mon petit frère qui avait à l'époque 17 ans. Donc je passais mes journées à faire des queues pour avoir de quoi nourrir ces quatre enfants. Car la population était complètement affolée et tout d'un coup il n'y avait plus rien dans les magasins. J'avais beaucoup de difficultés avec mon jeune frère qui voulait aller dans les rues voir ce qui se passait. Et j'étais tout le temps inquiète en me demandant s'il allait revenir. Je voyais mon mari à 6 heures du matin. Il arrivait avec une bande de copains affamés et donc il dévorait toutes les réserves que j'avais faites la veille en faisant la queue toute la journée avec mes quatre enfants aux trousses. Et voilà, donc c'était une période à la fois d'exaltation parce que il y a eu une réaction dans la population telle que on pouvait être fier et exalté, et puis bon, un souvenir de détresse c'était le malheur qui nous tombait dessus.
S'ensuit une période difficile dont vous parliez tout à l'heure. Votre mari a été emprisonné pour plusieurs mois pendant l'année 1972. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour vous ?
Pour moi, j'ai essayé de continuer à vivre le plus normalement possible. J'ai continué à travailler. J'étais encore donc dans l'immeuble du Palais Sport, rue Hebernska, à enseigner donc le français dans cette école de traducteurs et d'interprètes. Je n'ai été renvoyée qu'après le procès de mon mari. Bon, c'était vraiment pas facile car les enfants étaient tout à fait traumatisés, en particulier le dernier né, mon petit garçon qui était encore tout qui était assez traumatisé par l'absence de son père. Enfin, les filles aussi, mais comme elles étaient plus grandes, elles le montraient moins. J'ai été très entourée par ma famille, par mes amis, beaucoup de solidarité et puis des lettres rares. Mon mari en a publié un certain nombre dans son ouvrage qui s'appelle Le prisonnier de Bohême, Český vězeň, où la dernière partie est consacrée à ses prisons à lui. Et donc, ça a été une période de 6 mois seulement, mais qui a été tout de même très, très longue à vivre comme ça, jour après jour. Car c'est seulement le jour du procès qu'on sait que ça ne durera que 6 mois. J'ai réussi à venir en France, le procès a eu lieu début août, et j'ai réussi à venir en France fin juillet. Comme j'étais française, je pouvais partir en France quand je voulais, mais le problème c'était qu'on me renouvelle, qu'on me laisse rentrer à nouveau dans le pays, naturellement. Donc il fallait que j'en aie l'assurance avant de partir. Donc j'ai essayé effectivement de me mettre en relation d'abord avec le Parti communiste français qui, comme vous le savez, avait exprimé sa réprobation, je crois que c'était le terme, par rapport à l'intervention des troupes du pacte de Varsovie, donc en août 68. Mais les gens du PCS, même des gens que je connaissais bien, comme l'ancien député Georges Marché, par exemple, les gens du PC ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour éviter de me rencontrer. Mais j'ai pu rencontrer François Mitterrand en personne. Et donc il y a eu effectivement une démarche de la part de François Mitterrand directement, enfin 2 ou 3 jours avant le procès. Et puis bon, les syndicats d'enseignants, enfin certains syndicats se sont mobilisés aussi à propos de ce procès, oui.
On est obligé de passer rapidement, malheureusement. En 1977, votre mari devient signataire de la charte. 5 ans plus tard, en 1982, vous décidez tous les deux de partir, d'aller en France. Est-ce que c'est vous qui l'avez poussé à émigrer à Paris ?
Non, absolument pas. Je n'avais pas envie de quitter... ça a été vraiment très dur pour moi de quitter ma maison, mon foyer. Je ne sais pas, toute ma vie d'adulte, à l'époque, je l'avais passée en Tchécoslovaquie, et c'est là que je m'étais mariée, que j'avais eu ma maison, mon chez-moi. Avant, j'étais jeune, étudiante, et c'était très différent. C'est là que j'avais eu mes enfants. Donc non, je n'ai absolument pas poussé mon mari à partir, mais les choses étaient devenues tout à fait insupportables. Je ne sais pas si vous savez qu'après la charte 77, la signature par mon mari, qui avait été proposée d'ailleurs comme porte-parole de la charte 77, poste qu'il avait refusé, responsabilité qu'il avait refusé parce que il avait dû avoir une grave opération des yeux, et à la suite de ces événements, nous avons reçu à la maison le cercueil de mon mari, ou plutôt mes enfants, enfin 2 de mes enfants, c'est-à-dire Natacha qui avait à l'époque 14 ans et Yvan qui en avait 12, ont reçu un soir le cercueil de leur père. Donc ça avait été quelque chose de tout à fait terrifiant. Et le cercueil était bien sûr envoyé par les services de la police politique. Bon, les enfants, notre fille Véronique était en France pour faire des études, l'aînée d'architecture auprès de mes parents à Toulouse, mais ne pouvait plus revenir en République tchèque. On lui avait saisi son passeport tchèque. Son père ne pouvait pas aller en France. La famille était déjà disloquée. Natacha a été poursuivie pour parasitisme à la société socialiste, car elle avait eu son bac à l'âge de 17 ans et que pendant un an, mineure, vivant chez ses parents, elle n'avait pas eu de scolarité officielle et de contrat de travail par ailleurs. Elle préparait le concours d'entrée au conservatoire de musique avec des professeurs particuliers. Donc bon, elle était soumise à des interrogatoires régulièrement. Avec notre fils, c'était difficile aussi. Et puis, Karel avait une nouvelle inculpation pour... je ne sais plus quel est le terme. Pobo Giovanni, c'était incitation à l'insurrection après les événements de Pologne. Il avait été arrêté une nuit dans Prague. Bon, et il avait fait deux ou trois journées de garde à vue. Les choses étaient devenues telles que la vie était insupportable. À Prague, moi, j'enseignais à l'école française, donc j'étais la seule à avoir une situation qui me satisfaisait. Donc vraiment, professionnellement, ça n'est pas moi qui est poussée, mais ce sont les choses qui... Et puis nos amis français, nos amis, en particulier Jean Pronto, qui était un proche de François Mitterrand et un grand ami de Karel, notre grand ami, Jean Pronto, essayait de persuader mon mari en lui disant « La gauche va gagner, François Mitterrand va être élu, etc. Il faut absolument que vous veniez en France. Pour toi, ça sera la possibilité de reprendre ton travail d'historien, etc. » Donc, bon, on a décidé, mais avec beaucoup de douleur. Donc, Véronica était déjà en France. Moi, je suis partie pour rejoindre... J'avais demandé un poste en tant que professeur d'histoire et de géographie, ce qui était ma formation initiale en France. Et donc, j'ai rejoint mon poste en septembre 82. Yvan est arrivé en octobre, Natacha en début décembre, et Karel fin décembre. Ils m'ont rejointe comme ça, au compte-gouttes, à la suite d'interventions, en particulier du secrétaire d'État aux droits de l'homme.
Alors comment s'est passé ce retour en France? Malheureusement, comme on est un peu pressé par le temps, comment avez-vous vécu ces journées de novembre 89 de Paris et la révolution de velours?
Ah là là, mon Dieu c'est très difficile de vous répondre. Bien sûr, on l'a vécu avec exaltation. J'avais été, pour ma part, à Prague en fin octobre, début novembre 89. Mon mari ne pouvait pas y aller, les enfants non plus, mais moi j'avais eu un visa. Donc j'avais vécu les premiers grands moments. Il y avait eu déjà de grandes manifestations dans Prague à ce moment de la Toussaint. De la Toussaint 89, donc bon, on attendait, et puis bon, la situation dans les pays du bloc de l'Est faisait qu'on attendait, ma fille Véronica était partie à ce moment-là à Prague, donc elle était en novembre, et Karel est partie à la mi-décembre à Prague, dont nous avons vécu ça dans une effervescence familiale certaines. Et nous avons passé donc Noël 89 à Prague avec nos deux filles. Notre fils avait été opéré, n'avait pas pu venir, donc ça a été des merveilleuses retrouvailles avec Prague pour mon mari, pour nous ensemble, pour nos enfants. Et bon, c'est quelque chose d'indescriptible en fin de compte. Je ne sais pas comment vous dire.
Est-ce que vous avez hésité à y retourner?
Pour ma part, j'aurais été prête à revenir vivre à Prague, oui. Parce que, bon, 82-89, c'était pas tellement long. Je me sentais là-bas encore plein de racines. Mon mari n'en a pas eu le désir. Il n'avait pas l'ambition de briguer, comme certains de ses amis, des responsabilités politiques. Il avait eu l'énorme satisfaction de redevenir en France un historien à part entière au CNRS. Et il a désiré rester en France. Voilà, tout en allant travailler à Prague régulièrement aux archives qui se sont ouvertes rapidement.
Alors justement, votre mari a publié plusieurs livres, dont un qui concerne ses archives, publié en 1996, qui s'appelle « Les aveux des archives, Paris, Prague, Paris », et qui a créé une certaine polémique à Paris. Est-ce que ça a été une période, un moment particulièrement difficile, cette polémique?
Enfin, ça a été difficile. Donc, je voudrais préciser une chose tout de même qui est très importante, c'est que c'est la maison d'édition qui a imposé le titre, les aveux des archives, que ça n'a... Enfin, ça se passe comme ça en France. Donc, ce n'était absolument pas le fait de mon mari. Ça n'était pas... Moi, j'ai beaucoup travaillé au livre avec lui puisque je l'ai traduit en français.
Il faudrait peut-être préciser pour les auditeurs que les aveux des archives, c'était en réponse au livre d'Arthur London qui s'appelait L'aveu et dont Costa Gavras a fait un film.
Oui, bon, ben voilà, c'est fait. Donc, il y a eu cette polémique, mais bon, je pense que mon mari a été très soutenu par ses collègues historiens. Il y a eu immédiatement, après l'article assassin, donc, dans Le Monde d'Adler, il y a eu aussitôt une réaction du directeur de l'Institut d'Histoire du Temps Présent, qui était son directeur, François Pédarida, dans Le Monde du Lendemain. Il y a eu une réaction de Marc Lazare, qui est le meilleur historien du communisme en France actuellement, du communisme italien en particulier, mais pas seulement. Et il y a eu une lettre écrite et signée par la grande majorité des historiens du temps présent pour le soutenir. Donc ça a été quelque chose, oui, d'extrêmement troublant, d'autant plus que, bon, nous n'attendions pas une réaction de ce genre, mais bon, le fait d'avoir mis le nez dans les archives du Comintern, dans les archives de Prague, inquiétait beaucoup de monde parce que eh bien, il y avait à l'époque, et il y a encore beaucoup de gens dont des proches se sont engagés au service du Comintern et au service des services soviétiques d'une façon, enfin, qu'il n'est pas encore bonne à dire. Et bon, enfin, c'est un très 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 beau livre dont nous sommes très fiers, et bon, c'est ça qui compte.
Alors, Suzanne Bartosek, comme on doit vous appeler ici.
Non, tout le monde nous appelle Bartosek parce que nous le faisons. On a imposé cette prononciation, donc je m'appelle Suzanne Bartosek.
Alors, Suzanne Bartoszek, aujourd'hui, vous vivez à Paris. Est-ce que vous retournez fréquemment à Prague?
Je vis à Prague depuis le décès de mon mari, mais auparavant, c'était à peu près la même chose, sinon que nous y étions ensemble et qu'il y était plus souvent que moi, d'ailleurs. À peu près un tiers, de mon temps. Nous avons pu acheter un petit appartement à Prague. Et donc j'ai un chez moi à Prague, donc je suis à Prague très très souvent. C'est mon monde familier, j'y suis totalement chez moi, j'ai beaucoup d'amis, j'ai toute la famille de mon mari et j'y suis chez moi.
Merci à Suzanne Bartoszek de nous avoir si gentiment reçus et d'avoir répondu à nos questions. Si vous voulez réécouter cet entretien dans son intégralité, c'est possible et c'est sur le web au www.radio.cz. Il suffit après de cliquer sur Français. Au revoir à toutes et à tous. Excellente semaine.
Listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 7 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 9 hours on 9880 kHz, at 10:30 hours on 11665 kHz, at 13 hours on 13580 kHz, and at 16, 17 and 20 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 10:30 hours on 9880 kHz. Listeners in Central and West Africa can tune in at 17 hours on 17485 kHz and at 21:30 hours on 9410 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 16 hours UTC on 17485 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 3:30 hours UTC on 9445 kHz. Now those of you tuning in North America can hear us at 21:30 hours UTC on 11600 kHz, at 22:30 hours on 7345 and 9415 kHz, also at 0 hours on 7345 and 9440 kHz, at 1 hour UTC on 6200 and 7345 kHz, and finally at 3 hours on 7345 and 9870 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 9 hours on 21745 kHz and at 13 hours UTC on 17540 kHz.